Les dessous de l'infox. Sophie Malibeau.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'infox. Comment les États-Unis de Donald Trump vont-ils agir dans le cyberespace ? Dérégulation du numérique, politisation du renseignement et de la cybersécurité. On en parle dans un instant avec l'historien Stéphane Taïa. Il analyse les tout premiers gestes du président Trump concernant le réseau social TikTok notamment. Les élections en Allemagne, c'est pour bientôt. Ingérence étrangère et désinformation inquiètent les Allemands et leurs partenaires. Nous ferons le point avec notre correspondant Pascal Thibault à Berlin. Enfin, Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI épingle plusieurs infox qui circulent dans le contexte du conflit en cours dans l'est de la RDC. Mais tout de suite, notre invité. Cybersécurité, cyberdéfense sont des domaines ultra sensibles de la politique américaine. Comment interpréter les premiers signaux envoyés par l'administration Trump ? Rupture ou continuité ? On en parle avec notre invité, Stéphane Taïa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous enseignez à l'Académie militaire de Saint-Cyr. Vous êtes membre du Centre de géopolitique de la datasphère Géode, partenaire de cette émission. Et vous venez de publier « De la cybersécurité en Amérique, puissance et vulnérabilité à l'ère numérique » aux presses universitaires de France. Alors ma première question, elle portera sur ce titre. Comment vous expliquez ce paradoxe d'une puissance dominante, notamment dans ce domaine des technologies du numérique, et le fait qu'elle comporte d'importantes vulnérabilités dans le cyber?
Alors il y a plusieurs facteurs, mais le plus important, ou celui qui structure l'ensemble, c'est le fait que l'espace numérique aux États-Unis, s'est construit finalement de manière organique, c'est-à-dire avec très peu de direction de la part des autorités publiques, donc beaucoup de laisser-faire, ce qui fait que les aspects offensifs, dirions-nous, ont été fortement investis par les bureaucraties type les armées ou les services de renseignement, alors que la partie défensive, elle, qui relève davantage du secteur privé, a été plus ou moins laissée à l'abandon par les pouvoirs publics.
On peut imaginer qu'il doit y avoir un certain bouleversement en cours actuellement du fait de l'arrivée de l'équipe Trump au pouvoir.
Ce qu'on sait, c'est premièrement que l'administration Trump, ou en tout cas les loyalistes autour de Trump, souhaitent limiter le rôle et l'intervention de l'État. Donc il faut s'attendre que les réformes faites pour renforcer le pouvoir fédéral en matière de cybersécurité vont soit s'arrêter, voire parfois être combattues. La deuxième chose qu'on sait, c'est qu'en revanche, sur le volet offensif, le volet de l'utilisation des cyberopérations par les militaires, voire par certains services de renseignement, on risque d'avoir une plus grande marge de manœuvre laissée justement à ces services et aux forces armées.
Une des premières décisions de Donald Trump, ça a été le rétablissement de TikTok, le réseau social, qui a été brièvement suspendu et immédiatement rétabli par le nouveau président. Alors comment est-ce que vous interprétez ce geste ?
Alors d'abord, je pense que c'est pour Trump effectivement l'occasion de montrer qu'il est capable de faire quelque chose par rapport à ses promesses électorales, puisqu'il avait dit qu'il sauverait TikTok, ce qui est paradoxal, puisque en 2020, il souhaitait au contraire la disparition ou en tout cas au moins la vente de TikTok à des actifs aux États-Unis. La deuxième interprétation, c'est que finalement, le président Trump veut aussi se passer des pouvoirs qui lui sont opposés, puisque c'est une loi du Congrès, validée par la Cour suprême, qui a obligé soit à la vente, soit en l'occurrence maintenant à l'interdiction. Donc il cherche à contourner cet ensemble-là. Et puis la troisième interprétation, c'est de s'en servir comme levier pour négocier probablement avec les Chinois, sachant que les dirigeants de TikTok et de ByteDance, la maison mère de TikTok en Chine, l'ont très bien compris puisqu'ils ont joué très très habilement sur le timing. Ils ont brièvement disparu en expliquant que l'administration Biden ne pouvait rien faire et tout de suite réapparu en expliquant que c'était grâce à Donald Trump.
Oui, mais alors, ce qui avait prévalu au moment de suspendre TikTok, c'était des facteurs qui n'ont pas disparu, c'est-à-dire que c'était notamment l'accès possible de l'administration chinoise aux données personnelles des utilisateurs de TikTok.
Alors, ça n'a pas, évidemment pas disparu, mais ça nous montre que le vrai projet d'un certain nombre de législateurs, d'ailleurs pas simplement dans le camp Trump, ce n'est pas d'interdire TikTok, mais plutôt d'obtenir que TikTok passe sous le contrôle à la fois d'entreprises et éventuellement même de, pourquoi pas, d'agences américaines qui permettraient de limiter, selon elles, ce risque. En fait, la plupart des acteurs ont compris qu'interdire TikTok avait un coût politique puisqu'il y a 170 millions d'utilisateurs et je ne sais combien d'électeurs dans le lot. Donc les problèmes n'ont pas disparu, mais la solution finalement qui évolue depuis le départ, d'obtenir une cession de TikTok à des actifs américains, reste privilégiée finalement pour Trump. Et puis par ailleurs, ça lui permettrait éventuellement de choisir entre des gagnants et des perdants, puisque c'est lui qui prétend, dit-il, choisir quelles vont être les entreprises américaines, Oracle, voire Microsoft, ou pourquoi pas Elon Musk, qui rachète justement TikTok.
Ça montre aussi que cette administration, ou que l'administration américaine en général, est capable d'accepter un certain nombre de vulnérabilités, justement, de risques, comme ceux que font courir TikTok.
Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, dans la mesure où, en fait, ces vulnérabilités sont communes à l'ensemble des plateformes numériques. Alors, c'est vrai que là, on a plutôt une plateforme chinoise, ou en tout cas reliée à la Chine. Mais de fait, ça montre aussi que la solution qui est promue, ce n'est pas une solution à l'européenne, qui reviendrait finalement à réguler, à imposer des réglementations, mais plutôt une solution qui vise à racheter tous les concurrents pour être sûr justement d'éliminer ce risque ou de le réduire au maximum.
Mais alors du coup, ce manque de législation ou de texte sur la gestion des données personnelles aux États-Unis, c'est un risque quasi accepté par l'administration américaine, mais du coup, tous ceux qui ont des données hébergées aux États-Unis, les Européens par exemple, qui ont, je crois, à peu près 80% de leurs données personnelles hébergées aux États-Unis, courent le même risque.
Oui, c'est-à-dire que c'est un serpent de mer transatlantique depuis pratiquement 20 ans maintenant, mais surtout depuis 2015, quand la Cour de justice européenne avait cassé l'accord précédent entre les États-Unis et l'Union européenne, que de savoir comment est-ce qu'on a la garantie en Europe que nos données sont traitées de manière conforme aux normes européennes. Et plusieurs accords avaient été trouvés en 2020-2022. On voit que finalement, ce n'est pas un problème apparemment pour l'administration Trump. Mais on pourrait élargir. Finalement, ce n'est pas un problème pour les élites politiques ou économiques américaines, dans la mesure où ce sont leurs plateformes qui dominent justement le secteur. C'est donc ces plateformes qui reposent sur un modèle qu'on connaît très bien, qui est celui de l'exploitation justement de ces données personnelles, hein, leur captation et leur revente. Et donc toutes les externalités négatives en matière de sécurité, jusqu'ici, reposent essentiellement sur les citoyens étrangers. Effectivement, par exemple, les citoyens de l'Union européenne. Avec TikTok, ce qui est venu finalement sur le devant de la scène, c'est que désormais les citoyens américains pouvaient être aussi victimes finalement de cet écosystème. Et on voit qu'avec l'administration Trump, le choix qui est fait aujourd'hui, mais qui est un peu dans la continuité de l'administration précédente, c'est de conserver finalement au maximum cet écosystème en l'état, c'est-à-dire de laisser de toute façon la possibilité aux plateformes de continuer à fonctionner grâce à cette collecte des données plutôt que de réguler la dite collecte.
Alors l'un des organes chargés de veiller à remédier aux faiblesses du système, c'est la CISA, l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures. On va écouter tout de suite son ancienne patronne, Jean Easterly. Elle est sur le départ après avoir servi 3 ans et demi dans l'administration.
Nous avons toujours été très attentifs vis-à-vis de la Chine en ce qui concerne les campagnes d'espionnage, le vol de données et la propriété intellectuelle. C'est certainement ce que nous constatons aujourd'hui avec la campagne Salt Typhoon, avec des intrusions dans nos infrastructures de télécommunications. Mais le plus marquant pour moi, c'est de voir des intrusions dans nos infrastructures critiques, non pas à des fins d'espionnage, mais plutôt à des fins de perturbation et de destruction. Nous sommes dans un monde où un conflit majeur en Asie, l'invasion potentielle ou le blocus de Taïwan par la République populaire de Chine pourrait avoir des conséquences très réelles ici, aux États-Unis. Des oléoducs, des gazoducs ou la distribution de l'eau pourraient être affectés, les télécommunications coupées, les lignes de chemin de fer ou l'alimentation électrique également affectées. Tout cela fait partie d'un effort délibéré de la Chine pour inciter à ce qu'on appelle une panique sociétale, afin aussi de décourager notre capacité à mobiliser la puissance militaire ou la volonté citoyenne.
Stéphane Taïa, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ces propos de la patronne de la CISA, donc l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures, qui vient donc de laisser sa place, on ne sait pas encore par qui elle sera remplacée?
Oui, ici, Jean Easterly fait référence en fait à 2 campagnes de piratage qui sont attribuées à la Chine, hein. Donc le nom Typhoon, ça renvoie à la taxonomie que Microsoft donne aux acteurs chinois. Donc elle parle d'abord de Salt Typhoon, donc, qui est l'affaire la plus récente, donc le piratage des opérateurs de télécommunications, qui est une opération d'espionnage, qui a montré la vétusté justement de la réglementation en matière de cybersécurité des opérateurs de télécommunications aux États-Unis. D'autant plus que ces derniers sont censés permettre aux forces de l'ordre et à la justice l'interception légale, l'écoute légale d'un certain nombre de communications aux États-Unis, et que ces systèmes-là aussi ont été victimes de piratage pour espionnage. Et ensuite, elle fait référence à quelque chose de plus ancien qui date du printemps 2023, qui est la révélation de ce qu'on appelle Volt Typhoon, donc qui est une campagne cette fois-ci non plus d'espionnage, mais de ce qu'on pourrait appeler du prépositionnement, c'est-à-dire l'idée que des hackers vont se positionner dans des systèmes critiques en mesure, si vous voulez, de les perturber, de les interrompre. Et ici, ce qui a beaucoup inquiété les Américains à l'époque, c'est que c'était des infrastructures critiques, notamment celles qui concernent les capacités logistiques des forces armées à pouvoir réagir en cas d'invasion ou de blocus de Taïwan. Et donc, c'est effectivement, pour elle, l'occasion de rappeler que vous avez quantité de secteurs aux États-Unis. Hein, on parle souvent de 16 secteurs critiques d'infrastructures qui sont finalement très difficiles, justement, à protéger en matière de cybersécurité, parce que ce sont des opérateurs privés qui n'ont pas toujours ni les ressources, ni les moyens de se protéger, et que la réglementation n'oblige pas toujours non plus à se protéger.
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elle soit aujourd'hui remerciée ?
Alors, il y a d'abord le changement d'administration qui font que ça peut être relativement logique de quitter son poste.
Oui, mais ce sont des préoccupations bipartisanes.
Voilà, alors effectivement, il faut espérer que les personnes qui seront nommées et confirmées à sa place, en tout cas on entend quelques noms flotter dans l'air, seront finalement assez compétentes et comprendront l'intérêt effectivement de la CISA. Alors il faut juste rappeler une chose à vos auditeurs, c'est que la CISA, c'est une agence qui dépend du département de la sécurité intérieure, qui est censée couvrir ou coordonner la gestion de crise cyber et la cybersécurité pour l'ensemble des agences fédérales et aussi pour les opérateurs privés dans ces fameux secteurs d'infrastructures critiques. Le problème, c'est qu'elle a très peu de pouvoir. Elle a un budget de 3 milliards de dollars, ce qui n'est rien par rapport à bien d'autres agences. Et surtout, elle n'a pas l'autorité donnée par le Congrès pour s'imposer justement à tous ces acteurs. Donc, c'est à la fois un organe très important et en même temps qui montait progressivement en puissance. Et ce qu'il faut craindre, c'est que la plupart des républicains proches de Trump ont expliqué que la CISA devait être réduite, notamment pour son rôle supposé dans la lutte contre, pour protéger les élections et donc contre la désinformation.
Oui, c'est ça. C'est que cette organisation-là pouvait mettre le doigt notamment sur les interférences étrangères dans le scrutin.
Oui, alors il y a plein d'autres agences qui pouvaient le faire, mais c'est vrai qu'elle a un rôle pivot puisque, en effet, ça lui permettait de communiquer ces informations à la fois aux réseaux sociaux, mais aussi à tous les secteurs qui sont concernés, puisque en effet, les élections, ça va concerner aussi les machines à voter, ça va concerner des organisations de collectivités territoriales. Donc de sensibiliser à la fois les électeurs, de sensibiliser tous ceux qui organisent les élections autour aux États-Unis sur ces menaces, sachant que la difficulté, c'est que faire la distinction entre ce qui relève de l'interférence proprement étrangère et des relais qu'il peut y avoir au sein de la société américaine, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est la raison pour laquelle la CISA, comme d'autres, a été accusée d'être l'instrument d'un organe de censure que Trump a promis de combattre. Ça a été un de ses premiers décrets, d'ailleurs, d'expliquer que le gouvernement fédéral ne devait pas censurer la voix des Américains.
Alors qu'il s'agisse des élections ou des menaces contre les infrastructures critiques, on voit bien là encore un paradoxe, c'est que il y a besoin de régulation, mais l'administration Trump, c'est des régulations à tout va.
En tout cas, c'est ce qu'on semble croire aujourd'hui. C'est le projet 2025 de la Heritage Foundation. Effectivement, c'est une marotte d'un certain nombre d'élus du Parti républicain, donc il y a un aspect idéologique. Il y a peut-être aussi un aspect levier pour faire pression justement sur certains acteurs en les menaçant peut-être d'être privés d'un certain nombre de fonds fédéraux ou de l'assistance fédérale s'ils se montrent trop critiques ou pas assez obéissant aux demandes de l'administration. Donc il ne faut peut-être pas négliger aussi le fait que derrière cette dérégulation, il y a une partie sélective, on va dire discriminante, où certaines choses seront dérégulées pour faciliter le travail du secteur privé, notamment dans le cas des télécommunications, ça va être probablement le cas. En revanche, d'autres acteurs ou d'autres secteurs vont être davantage ciblés en leur disant « on vous régule », c'est-à-dire « on vous impose un fardeau supplémentaire si vous n'allez pas dans notre sens ».
L'intelligence artificielle comme outil de cybersécurité, alors Trump pensait faire un gros coup dès son arrivée en annonçant Stargate, un projet pharaonique, mais voilà que la Chine, encore elle, lui vole la vedette avec DeepSeek, qui a coûté beaucoup moins cher que le projet envisagé par l'administration américaine, en contournant d'ailleurs l'interdiction américaine de puces électroniques à la Chine. On va entendre ce que Trump disait de cette arrivée de DeepSeek sur le devant de la scène.
La sortie de l'IA DeepSeek par une entreprise chinoise devrait être un signal d'alarme pour nos industries. Il va falloir se battre pour gagner.
Se battre pour gagner. Comment les États-Unis vont-ils rebondir après ça?
Je retiens le mot de « wake up call », de signal qu'il faut se réveiller. qui montre que finalement Trump lui-même a bien rebondi sur ce qui aurait pu être une mauvaise nouvelle. Alors, je dirais deux choses. D'abord, cette annonce de DeepSeek remet en question le dogme que Sam Altman et d'autres cherchent à vendre aux investisseurs et aux politiques aux États-Unis, c'est-à-dire que pour progresser en IA, il va falloir dépenser d'autant plus. Et aujourd'hui, on a effectivement des sommes pharaoniques, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc ça remet en cause ce dogme, mais de l'autre côté, c'est effectivement une opportunité dans le sens où si effectivement ça permet de réduire les coûts de production ou de développement de l'intelligence artificielle, ça va profiter forcément aux acteurs états-uniens parce que ceux-ci restent leaders en matière de fabrication de semi-conducteurs de pointe ou en fabrication ou développement de modèles de pointe. Donc ça ne remet pas en cause la domination américaine ou des acteurs américains sur ce secteur. En revanche, ça montre que le dogme sur lequel il reposait jusqu'ici pour attirer les investisseurs n'est pas le bon, mais ça peut être de fait une bonne nouvelle parce que si ça remet en question le fait qu'au lieu de dépenser des centaines de milliards de dollars, quelques dizaines de milliards, voire moins, pourraient être suffisants, c'est une bonne nouvelle.
Toutes ces vulnérabilités dans le cyber, malgré tout cette intense compétition autour des intelligences artificielles, ça nous montre une Amérique en déclin ou simplement en crise ?
J'ai coutume de dire que les Américains parlent beaucoup de déclin, mais ils le font périodiquement. Le terme exact de crise que vous utilisez me semble le bon, dans la mesure où une crise, c'est un moment qui oblige aussi à se renouveler, à retourner en quelque sorte peut-être aux fondamentaux pour voir ce qui pourrait être fait de mieux. En matière de cybersécurité, on est effectivement dans une situation de crise, dans la mesure où un certain nombre de choses qui ont pu être menées à bien par l'administration Biden, et déjà d'ailleurs en partie par la première administration Trump, risquent d'être stoppées, remis en question, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des retours en arrière qui, eux, seraient négatifs. En revanche, sur des aspects comme l'IA ou sur les développements des technologies, on voit bien que les États-Unis aujourd'hui sont plutôt dans une dynamique ascendante.
C'est compliqué pour les alliés et partenaires des États-Unis. Ça risque d'intensifier ce qu'on appelle la conflictualité numérique.
Par rapport aux alliés, ça risque de compliquer la coopération sur un certain nombre de sujets qui sont soit au cœur, soit légèrement secondaires, mais quand même importants en matière de cybersécurité. On évoquait tout à l'heure la question des données à caractère personnel, évidemment. Mais de fait, il faut compter sur aussi l'ancienneté de ces coopérations en matière de renseignement, en matière militaire, en matière aussi normative, puisque aujourd'hui, les États-Unis et un certain nombre de pays européens sont sur la même ligne concernant, par exemple, la réglementation de ce qu'on appelle les logiciels espions et leur utilisation, hein, les spywares, concernant la lutte contre les ransomware, c'est-à-dire ces groupes criminels qui vont extorquer des fonds en bloquant des entités. J'allais dire, ce dossier normatif, il reste quand même plutôt encourageant. Maintenant, le problème, c'est qu'on a bien vu que la diplomatie n'est pas le fort de Trump, enfin l'outil diplomatique. Donc on verra ce que fera le département d'État, par exemple, avec Marco Rubio, qui a un bureau depuis février 2022, qui est chargé justement d'étudier ces questions, et normalement, qui travaille avec les partenaires et les alliés.
Parce qu'on peut penser à une certaine résilience aussi de l'administration américaine. Certains le disent, par exemple, sur l'environnement. On l'a vu lors du premier mandat de Donald Trump. Mais simplement, lors de ce deuxième mandat, lui est arrivé avec un objectif, c'est la revanche contre ce qu'il appelle le Deep State. Justement, dites-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Alors, effectivement, l'idée pour Trump, c'est qu'un certain nombre de services de renseignement ou d'agences fédérales se sont opposés à lui lors de son premier mandat, l'ont poursuivi, ou ce qu'il appelle la chasse aux sorcières, dans l'interrègne, dans cette présidence en exil de 4 ans. Et donc, effectivement, le FBI ou la NSA, hein, l'Agence de Sécurité Nationale, sont probablement sur la sellette. C'est pour ça qu'ils cherchent à nommer au FBI Cash Patel pour non seulement mettre au pas cette agence, mais peut-être éventuellement en démanteler un certain nombre de compétences. Maintenant, pour d'autres aspects, ce qui est plus inquiétant, c'est l'idée de vider vraiment l'administration fédérale de tous ses fonctionnaires de carrière pour les remplacer par un nombre certainement plus réduit, d'ailleurs, de loyaux serviteurs qui ne seront pas forcément compétents ou qui auront des intérêts, des conflits d'intérêts avec le secteur privé. Donc je pense que là, on est vraiment sur un sujet qu'il va falloir regarder. Et je serais bien en peine de vous dire dans quelle direction on va, mais il est clair que la revanche de Trump risque de détruire pas mal de choses.
Merci beaucoup Stéphane Taïa. Je rappelle le titre de votre ouvrage « De la cybersécurité en Amérique, puissance et vulnérabilité à l'ère numérique » aux Presses universitaires de France. On retrouve à présent notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. Bonjour Pascal.
Bonjour Sophie.
La campagne électorale bat son plein en Allemagne. On vote le 23 février prochain, ça se rapproche. C'est un scrutin très attendu. On sait que l'extrême droite reste forte. Et pour certains, cette campagne est une occasion privilégiée pour influencer le cours des choses en diffusant de fausses informations. Pascal, quelle place prend la désinformation dans cette campagne électorale en Allemagne ?
Bien, elle n'est pas négligeable, surtout et d'abord bien sûr sur les réseaux sociaux, et ça inquiète les responsables allemands et les services de sécurité. Il y a aussi des échanges avec des services d'autres pays. Le but de cette désinformation, c'est qu'elle vienne d'influenceurs allemands, de médias proches de l'extrême droite, ou bien qu'ils soient ces réseaux sociaux, ces comptes orchestrés, alimentés notamment par des agences au service de Moscou. Le but, c'est de présenter l'Allemagne sous un jour très négatif pour susciter l'inquiétude des électeurs, présenter une Allemagne à feu et à sang, si on caricature, avec une situation économique qui serait dramatique, la faim qui menacerait, l'immigration qui menacerait de provoquer des troubles majeurs. On sait qu'il y a eu des attentats divers ces derniers temps qui ont provoqué une grosse inquiétude en Allemagne. Tout ça orchestré, manipulé par les médias. Le rôle de la Russie est important, mais on voit aussi, on a vu le rôle de Musk dans la campagne. C'est une nouveauté, ce rôle d'une personnalité proche de Donald Trump, très populiste, qui prend fait et cause pour le parti d'extrême droite AfD. Il avait dit avant Noël et écrit plus exactement que seul ce parti pouvait sauver l'Allemagne. Au début du mois de janvier, il a dialogué pendant une bonne heure avec la présidente de l'AfD, Alice Weidel. Il y a quelques jours, il participait par vidéo interposée à un meeting de campagne de l'AfD. Donc on voit qu'il y a vraiment aussi la volonté de booster ce parti d'extrême droite pour qu'il obtienne à l'arrivée un résultat aussi fort que possible. En tout cas, ça marche sur les réseaux sociaux parce que ce soutien indirect ou direct de Musk a provoqué un bond en ce qui concerne la fréquentation, les impressions des réseaux de l'AfD.
Alors justement, qu'est-ce qu'on voit circuler sur Internet ?
Pas mal de choses. On voit de fausses informations. Par exemple, l'une présentait le ministre de l'économie, le vert Robert Habeck, comme un pédophile. Une autre, avec une fausse interview d'un call boy africain, voulait insinuer que la ministre verte également des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avait recouru au service de ce monsieur. On voit que les Verts, qui sont notamment résolus aux côtés de l'Ukraine et contre la Russie, sont aussi dans le collimateur de cette désinformation souvent orchestrée par la Russie. On voit que l'AfD proprement dite n'hésite pas à utiliser des vidéos. Par exemple, la plateforme corrective montre que des manifestations anti-AfD ont été utilisées, les images de ces manifestations, par l'AfD pour les transformer en manifestations populistes, nationalistes de droite au profit de ce parti, ce qui est assez fort de café. Il y a aussi la volonté de montrer que les puissants s'en mettent plein les poches, pour être direct, avec des publications sur le net montrant que le chancelier Scholz ou la coprésidente du Parti Vert disposerait d'une villa en Californie qui aurait été victime des flammes récemment à Los Angeles.
À ce stade, est-ce qu'on a une idée de l'impact ? À qui pourrait bénéficier cette désinformation ?
Ce qui est clair, c'est que le principal bénéficiaire, c'est avant tout le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, dont on connaît, comme pour les autres partis populistes de droite en Europe, les liens avec Moscou, en ce qui concerne donc le rôle que peuvent jouer des agences travaillant pour la Russie. On a aussi évoqué le soutien de Musk du côté américain. Donc la volonté est claire, dresser un portrait, comme je le disais, aussi noir que possible de l'Allemagne, de façon à inquiéter les électeurs, de façon à les inciter à soutenir ceux qui, entre guillemets, auraient les bonnes solutions pour sauver le pays de la ruine. Ça inquiète aussi les Allemands. Dans un sondage fait pour le magazine Der Spiegel, la moitié d'entre eux soulignait que l'influence de cette désinformation était importante, et ils étaient autant à estimer que c'était difficile lorsqu'on était confronté à des publications suspectes ou qui ne paraissent justement pas suspectes, c'était difficile de reconnaître cette désinformation.
Merci beaucoup Pascal Thibault. Alors on aura l'occasion de revenir sur cette campagne électorale allemande très prochainement dans les Dessous de l'Infox. La désinformation s'insinue aussi dans les conflits du fait des contenus mensongers qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
La situation est préoccupante en République démocratique du Congo avec la progression du M23 soutenu par le Rwanda. Les affrontements dans l'est du pays s'accompagnent d'une vague de désinformation alimentée de toutes parts. Vous épinglez aujourd'hui tout particulièrement des infox au sujet de l'implication des puissances étrangères.
Oui, à en croire d'une publication mensongère activement relayée sur Facebook et TikTok, la France aurait décidé de soutenir militairement le Rwanda. Ce message avance à tort que 3 avions militaires français chargés de munitions seraient en route vers Kigali et que certains auraient déjà atterri. Leur objectif serait, je cite, de faire tomber Goma coûte que coûte. La photo qui accompagne ce poste montre un A400M Atlas, un avion de transport français au sol sur le tarmac d'un aéroport.
Une fausse information fabriquée de toutes pièces.
Oui, cette rumeur ne s'appuie sur rien de factuel puisqu'aucun avion militaire français n'a été vu à Kigali. En réalité, la photo partagée n'a rien à voir avec la situation dans l'est de la RDC. Grâce à une recherche par image inversée, on retrouve sa trace dans plusieurs articles de presse publiés en 2022. Elle a été prise sur la base de Calvi, en Corse et non au Rwanda. Ni l'armée française ni l'armée rwandaise n'a d'ailleurs communiqué sur une quelconque livraison de munitions.
Et la diplomatie française a d'ailleurs démenti cette rumeur.
Exactement, contacté par la rédaction de Balobaki, un média de fact-checking congolais, le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a démenti ces allégations. Aucun avion français ne transporte des munitions vers Kigali, assure Christophe Lemoine. Rappelons que la France a fermement condamné l'offensive menée par le M23 et appelé les forces rwandaises à quitter instamment la RDC.
Alors ces fausses accusations d'implication militaires étrangères visent aussi d'autres pays.
À commencer par l'Afrique du Sud, plusieurs publications cumulant plus d'un million de vues affirment que les forces de défense nationale sud-africaines auraient envoyé 4 avions de combat en RDC pour soutenir l'armée congolaise. Sauf qu'une nouvelle fois c'est faux, aucun chasseur sud-africain n'a été aperçu à Goma. Si la photo publiée sur les réseaux sociaux montre bien un escadron de Gripen, des avions de combat suédois que possède Pretoria, le cliché a été pris en réalité il y a plus de 10 ans. Face à la viralité de cette fausse information, l'armée sud-africaine a même publié un démenti.
Et ces deux infox, vous nous dites, Grégory, sont loin d'être les seuls à circuler sur les réseaux sociaux.
Oui, la situation en cours en RDC est particulièrement propice à la désinformation. Énormément d'images circulent, dont beaucoup sont sorties de leur contexte. Certains n'hésitent pas aussi à détourner l'image de certains médias, comme RFI, pour diffuser des infox. Raison pour laquelle il faut rester prudent et penser à remonter à la source en cas de doute.
Merci Grégory Genevrier. Alors tout ce travail de vérification est à retrouver sur notre site RFI.fr. On peut également y accéder en tapant Info Vérif RFI dans une barre de recherche. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril. À la réalisation, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en compagnie de Simon Bourtembourg. Bonsoir Simon.
Bonne soirée Sophie Malibaud, les dessous de l'Infox de retour la semaine prochaine sur RFI et à chaque instant sur notre site et nos applications. RFI soir, la suite dans 2 minutes, un nouveau journal consacré à l'actualité internationale. Nous le verrons, les députés allemands viennent de rejeter de justesse une proposition de loi pour restreindre l'immigration. Nous reviendrons par ailleurs sur l'attente des familles en Israël alors que le Hamas a donné les noms des 3 otages qui seront libérés demain. L'actualité sportive à suivre également après le journal, ce sera avec Victor Missistrano. Et puis, évidemment, comme chaque jour, l'actualité africaine à l'honneur sur RFI à 18h30 temps universel. Ce sera avec vous, Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Afrique Soir, première édition, et vous nous parlerez
bien de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo avec la diplomatie tous azimuts. Le sommet extraordinaire des pays de la SADC se tient en ce moment à Harare. Il s'agit d'évoquer la situation dans les 2 provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et puis, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lui est à Kigali après avoir été à Kinshasa. Nous ferons un point complet dans cette édition. C'est une page qui se tourne et la fin de la présence française au Sahel. Une cérémonie officielle a eu lieu au Tchad, cérémonie des autorités pour marquer le départ des forces françaises du pays. Alors est-ce la fin définitive de la coopération militaire entre la France et le Tchad? Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Enfin, le soulagement à Madagascar, 400 pêcheurs qui étaient portés disparus ont finalement été retrouvés sains et saufs.
Afrique Soir, on vous retrouve donc à 10.